Deutsche Welle Afrique 7 jours.
Bonjour à tous. Le Maroc, c'est notre destination aujourd'hui dans Afrique 7 jours. Dans ce pays conservateur, la lutte pour la protection de l'enfance est engagée. La danse du monstre, un film sur l'inceste et la pédophilie, le premier du genre, vient même de faire sa sortie au cinéma. Laureline Savoie a assisté à l'avant-première. Son reportage à suivre dans la première partie de cette émission. Dans la seconde partie, ce sera la revue de presse avec Philippe Pognon et des sujets africains très variés qui sont évoqués cette semaine dans les journaux allemands. Bonjour Philippe.
Bonjour Carole. Oui, nous parlerons encore une fois et toujours de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Nous évoquerons aussi la situation au Mali ainsi que les activités des islamistes du groupe Boko Haram au Nigeria.
Merci beaucoup Philippe. On vous retrouve tout à l'heure. À Genève, mercredi passé, le Conseil des droits de l'enfant a reçu des représentants de plusieurs pays pour faire un bilan des réalisations depuis que ces États ont ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. Rabat a procédé à cette ratification en 1993. Le jour de la rencontre coïncidait justement avec la sortie au cinéma du premier film marocain sur l'inceste et la pédophilie, « La danse du monstre ». Au Maroc, pays conservateur où les islamistes sont à la tête de la coalition au pouvoir, les langues commencent à se délier et les associations militent pour de meilleures politiques publiques de protection de l'enfance. Le reportage de Laureline Savoie.
Zineb, descends.
C'est mon père, j'ai peur, il est fou de venir jusqu'ici. Zineb a 18 ans. Le soir de son anniversaire, son père, sous l'emprise de l'alcool, la viole. Son frère Aziz fait l'école buissonnière, chiffonnier pour gagner quelques dirhams. Il offre parfois son corps à des touristes de passage. Ce scénario a été écrit par Amal Tamar, membre de l'association Touche pas à mon enfant, qui depuis 10 ans est à l'écoute de ses enfants abîmés et témoin d'une justice trop clémente à l'encontre des pédophiles.
Touche pas à mon enfant, est arrivé à avoir une grosse peine là pour l'Espagnol qui abusait de petits Kenitra. C'était une première d'arriver à avoir 30 ans de prison ferme. Moi je dis que ce n'est que le début.
Cet Espagnol, c'est Daniel Galvan. L'année dernière, l'opinion publique marocaine et internationale avait été choquée par la grâce royale accordée à cet homme, accusé d'avoir abusé sexuellement d'une dizaine de mineurs. Ce film se penche pour la première fois au Maroc sur un sujet encore plus sensible, l'inceste. Nezra Skali, ancienne ministre du Développement social et de la Famille.
Déjà, le silence a été rompu sur la question de la pédophilie et sur les agressions sexuelles envers les enfants. Mais là, quand il s'agit de l'inceste, c'est encore un beaucoup plus gros tabou qui est brisé. Et là, encore une fois, on est vraiment démunis pour pouvoir protéger un enfant contre son propre père ou contre ses propres parents. La plupart des cas de violence déclarés, ceux qui étaient auteurs de ces violences étaient soit les parents, soit les enseignants, soit les gens qui sont chargés de l'éducation même des enfants. C'est donc une autorité qui s'exerce sur l'enfant et ça rendait encore plus difficile la lutte contre les agressions sexuelles à l'égard des enfants.
L'inceste, un tabou encore bien ancré. Laïla Aboulouafa, assistante sociale dans un hôpital pour enfants, le constate au quotidien.
Quand est-ce qu'on le dévoile? Lorsqu'il s'agit de père et qu'il y a des problèmes familiaux. La maman, elle a ras-le-bol. À ce moment-là, c'est l'occasion d'exploser. Mais lorsqu'il s'agit de l'inceste de l'oncle et du beau-père, on est un petit peu réticent de raconter l'histoire. On vient parfois, la première fois, mais la deuxième fois, ça y est, on s'éclipse dans la nature. C'est la famille qui a fait pression pour ne pas salir l'honneur de la famille.
Le poids de la société et un blocage au niveau des politiques publiques. En 2010, un programme pour la protection de l'enfance était lancé, aujourd'hui abandonné.
L'unité de protection de l'enfant qui permettait de coordonner l'ensemble des efforts publics autour de la protection de l'enfant. Et malheureusement, ces projets aujourd'hui sont abandonnés par le gouvernement Benkirane. L'unité de protection de l'enfant, elle permettait de coordonner entre le ministère de la Santé, entre le ministère de l'Intérieur. Vous imaginez bien que dans les cas pareils, on a besoin et de la justice et de la police, du côté médical et du côté psychologique, et de l'association pour l'accompagnement de toute cette prise en charge de l'enfant. Et les personnes aujourd'hui victimes de violences n'ont pas de recours où ils puissent réellement être pris en charge et où on peut réellement avoir une coopération entre les différents intervenants pour protéger ces enfants. Il y a des efforts dispersés qui sont faits par certains acteurs publics. On ne peut pas dire qu'il n'y ait aucun effort qui soit fait. Mais il était indispensable d'avoir une coordination, une convergence entre les différents intervenants.
L'éducation, la prévention sont nécessaires car les enfants n'ont pas conscience de la gravité des actes dont ils sont victimes.
Il sait que le sévice est mal, mais il ne fait pas de différence entre l'inceste. C'est quelqu'un qui lui a fait du mal, tout simplement. Cette année, on va démarrer une campagne de sensibilisation sérieuse envers les écoles, surtout les primaires. Il y a un manque d'information chez le petit sur tout ce qui est sévice, sur tout ce qui est abus sexuel.
Sensibiliser l'ensemble de la population pour protéger les enfants. Au Maroc, 80 000 filles de moins de 15 ans travaillent comme petites bonnes et 35 000 sont mariées chaque année à l'âge où elles devraient être sur les bancs de l'école. Pour la Deutsche Welle, Laureline Savoie à Casablanca.
Place à présent à l'Afropresse et dans ce tour d'horizon de la semaine des journaux allemands sur l'actualité africaine, il est question de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, de la situation au Mali et des activités des islamistes de Boko Haram au Nigeria. Philippe, et on commence justement avec ce thème.
Pas un jour ne se passe sans que des nouvelles effrayantes ne nous parviennent du Nigeria et du groupe terroriste de Boko Haram, relève la FATS, la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Rapts, attaques et attentats, les extrémistes continuent de répandre la terreur dans le pays. Dans l'est du Nigeria, la ville de Gwoza et ses alentours sont désormais contrôlés par Boko Haram qui y a proclamé un califat. Le gouvernement du président Goodluck Jonathan, tout comme l'armée nigériane, essaie de minimiser la menace terroriste. Mais cette menace est pourtant omniprésente, relève la FATS, qui cite Mohamed Muntaka Aiwa, correspondant de la Deutsche Welle au Nigeria. Tout comme un grand nombre de ses compatriotes, Aiwa ne fait plus confiance aux autorités. Au moindre bruit, les gens sursautent, hantés par la peur d'un attentat terroriste, dit-il. La FATS estime que les journalistes ont toutes les raisons d'être sur le qui-vive. D'un côté, les gens au Nigeria veulent savoir comment est la réalité dans le pays. De l'autre, faute d'une presse indépendante, les Nigérians sont de plus en plus dépendants des informations que leur livrent les médias internationaux tels que la Deutsche Welle.
Et la FATS relève que c'est la raison pour laquelle le nouveau directeur général de la Deutsche Welle, Peter Limbourg, veut renforcer la pertinence des informations diffusées par la radio internationale allemande en envoyant deux correspondants supplémentaires au Nigeria et qui seront basés dans la grande métropole qu'est Lagos.
Oui, et le journal souligne que plus le groupe terroriste Boko Haram étend son emprise dans le pays, et plus les conditions de travail pour les reporters deviennent difficiles. Trouver un équilibre et la vérité entre les communiqués officiels gouvernementaux et les rudes méthodes d'information des chefs de Boko Haram, qui, sous le couvert de l'anonymat, font tout pour que l'on parle de leurs actions, c'est là la difficile tâche que doivent assumer les journalistes sur place, conclut le journal.
La Süddeutsche Zeitung se penche, elle, sur un autre pays du continent africain, confronté également à de sérieux problèmes. Il s'agit du Mali.
Malgré l'intervention française, malgré la présence de l'ONU et malgré quelques 140 instructeurs de la Bundeswehr, l'armée allemande, la situation au Mali est plus bloquée que jamais, relève la Süddeutsche Zeitung. Avec l'échec de son offensive sur Kidal en mai dernier, le pouvoir malien s'est mis dans une situation inextricable. Le gouvernement à Bamako n'exerce plus pratiquement aucun contrôle sur le nord du pays. Son armée s'est révélée incapable de s'y imposer. L'accord de paix signé le 23 mai sous la médiation de l'Union africaine fixait l'engagement de chaque partie en conflit à rester à l'endroit où elle se trouvait au moment de la signature de l'accord. Depuis, l'armée malienne ne peut plus faire aucun mouvement dans le nord sans que cela soit considéré comme une atteinte à cet accord. La plupart des soldats gouvernementaux sont casernés depuis dans des camps de l'ONU et apparemment contents de jouir de cette protection face aux belliqueux combattants Touareg. Ce n'est pas là le changement que les Français espéraient apporter lorsqu'ils ont lancé l'offensive contre les rebelles islamistes en janvier 2013, souligne le journal.
Et le quotidien relève par ailleurs que les frontières entre groupes rebelles, entre islamistes et non-islamistes, ne sont pas très claires.
Nombreux sont les combattants qui passent d'un camp à l'autre, des rangs des islamistes au rang du MNLA et vice-versa. Certains sont même tour à tour actifs dans différents camps. Ils se rasent la barbe ou bien la laissent pousser et retournent leur veste à l'occasion. Pour la mission onusienne MINUSMA, comme pour les Français, il est souvent impossible de distinguer qui est qui et quels sont ceux qui se cachent derrière tel ou tel attentat. Même des représentants de l'État malien se plaignent fréquemment de ne pas savoir avec qui ils sont réellement en train de négocier. L'un des problèmes essentiels à la base de plusieurs rébellions Touareg au cours des dernières décennies demeure d'actualité, écrit la Süddeutsche, c'est le sous-développement économique du Nord. Et la crise, qui perdure depuis 2012, n'a fait qu'empirer la situation, conclut l'éditorialiste.
Autre sujet développé dans la presse allemande cette semaine, il s'agit d'Ebola. Le journal de Hambourg, Die Zeit, estime que le monde entier doit aider, que seule une action massive et rapide pourra stopper l'épidémie.
Attendre et voir comment l'épidémie se terminera d'elle-même n'est pas la solution. Déjà, plusieurs milliers de personnes ont contracté la fièvre d'Ebola. Et le virus est en constante mutation. Jamais jusqu'ici, il n'avait eu l'occasion de s'adapter sur une aussi longue période sur les humains. Personne ne sait quand et où des mutants de ce virus apparaîtront, qui seront alors peut-être difficiles à identifier ou encore plus contagieux. Jusque-là, le monde, en dehors de la région de crise, était surtout occupé à assurer sa propre protection. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, s'est retirée provisoirement des régions les plus touchées après que plusieurs de ses collaborateurs ont contracté le virus. Des pays voisins ont fermé leurs frontières. Des liaisons aériennes vers la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone ont été annulées.
Mais comme le souligne le journal, on ne peut pas isoler des États entiers.
En effet, et Die Zeit rappelle qu'un premier cas présumé d'Ebola a déjà été signalé au Sénégal, une destination touristique de choix pour les Européens. Le Mali est étroitement lié sur le plan économique à son voisin la Guinée. Les 1,8 million habitants de la capitale Bamako ne vivent qu'à une centaine de kilomètres de la zone contaminée où est apparu le virus. Si le virus continue de se propager en Afrique, en Europe aussi, il pourrait bientôt y avoir des cas d'Ebola. C'est pourquoi une aide rapide et massive à l'Afrique de l'Ouest n'est pas seulement un devoir d'humanité, c'est aussi la meilleure prévention pour le reste du monde, conclut Die Zeit.
Merci Philippe pour ce passage en revue des sujets africains développés dans la presse allemande cette semaine. Afrique 7 jours, c'est fini pour aujourd'hui. À la présentation, c'était Philippe Pognon et Carole Assignon. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette émission.